Ton histoire avec les contes, c'était où, c'était quand que ça a commencé?
En fait, moi, je me suis toujours sentie en décalage. Enfin, avec Aini, là, vous parliez de se sentir autrement que ne plus vivre en décalage. Moi, j'ai l'impression que j'ai toujours vécu en décalage. Donc, enfant, c'était déjà le cas. Et c'est toujours le cas. Mais maintenant, ça va mieux. parce que l'imaginaire m'aide, en fait, et parce que mon métier m'aide à vivre dans la réalité qui est communément admise par la plupart des gens. Et ouais, donc moi, quand j'étais petite, j'ai passé beaucoup de temps à la bibliothèque, à aller chercher des livres qui... Il fallait d'abord, enfin enfant, hein, il fallait d'abord que l'image de couverture m'attire. Et puis après, je me plongeais dans la lecture des histoires, et c'est comme ça que je suis tombée sur des contes. Alors après, je me souviens de contes dans mon souvenir sont horribles, de genre les souliers rouges d'Andersen, ou des trucs comme ça, qui m'ont fait beaucoup d'effet. Voilà, ce côté mystérieux et qui me dit, mais tu sais, la réalité n'est pas forcément telle qu'on croit, il y en a d'autres ailleurs que celles que tout le monde voit. Il y a des mondes parallèles, il y a des mondes enchantés, il y a des arbres qui parlent. Et donc ça, c'est bien avant, évidemment, d'avoir lu essentiellement à propos de peuples premiers et voilà, sur le rapport aux plantes, à la forêt, par exemple, en Amazonie. Et du coup, voilà, moi, ça m'a vraiment fait du bien. Et donc, mon imaginaire m'a beaucoup aidée à surmonter des choses qui étaient difficiles, parce qu'en fait, je me refaisais la réalité à ma façon. Et du coup, ça allait mieux pour... je me le refaisais, je me souviens que je me refaisais ce qui s'était passé dans la journée, je me le refaisais dans ma tête quand j'allais me coucher, des choses qui avaient été difficiles, je me les refaisais et ça se terminait bien, du coup je pouvais m'endormir et puis je pouvais rêver et puis le matin je pouvais recommencer à découvrir comment les autres pensaient et quand même toujours être très surprise, mais bon, heureusement après je me suis fait des amis, hein, donc ça c'était cool. Et du coup, bon après, un peu peut-être, il y avait une certaine logique là-dedans. J'ai voulu comprendre les humains, donc j'ai fait des études de psycho. J'étais fort déçue, parce que voilà, enfin pour toute une série de raisons, je pense pour une des choses avec lesquelles c'est toujours très compliqué pour moi, mais peut-être que c'est bien hein, d'avoir des soucis avec l'autorité. Et donc, c'est sûr que bon, j'étais juste psychologue, hein, donc j'étais pas psychiatre, et donc c'est compliqué la hiérarchie médicale. Voilà. Et du coup. Ce qui m'a intéressée, ce sont les lisières. Donc, les lisières entre les mondes. Donc, les lisières poreuses entre, par exemple, la folie et la norme. Parce que, voilà, c'est qui est folle et qui ne l'est pas. Moi, je ne suis. Attends, c'est quoi la phrase de Salvador Dali, un truc comme ça? Je ne sais plus ce qu'il dit, mais. La différence entre un fou et moi, c'est que moi, je ne suis pas fou. Ben, voilà, c'est clair, quoi. Et donc, enfin, et ça, pour reprendre des choses qui ont été dites hein, par certaines d'entre vous auparavant, c'est la différence, c'est la fragilité dont parlait Gigi. En effet, le héros ou l'héroïne du conte merveilleux. C'est quand même souvent l'idiot, c'est quand même l'idiote, c'est... Et voilà. Et alors du coup, après ça, en étant dans tous ces intérêts-là, j'ai rencontré Didier Kovarsky. Et alors ça a été vraiment une rencontre très très importante pour moi parce que je pense que c'est le conteur qui m'a quelque part Enfin, il ne se posait pas du tout en maître, mais j'ai eu l'impression qu'il m'autorisait à être peut-être différente, quoi. Enfin, je ne sais pas. En tout cas, le premier spectacle que j'ai fait s'appelait Celle qui avait une plume, et c'est sur la folie et la norme. Et après les représentations, souvent, il y a des gens du public ou parfois des organisatrices qui venaient me demander « Et vous, ça va ?» Voilà. Ça n'a pas vraiment changé, mais voilà, c'est vraiment ça qui m'intéresse. Enfin, c'est pas que ça m'intéresse en fait, c'est que je peux pas raconter autre chose. Alors, je voudrais bien hein, raconter des blagues, mais c'est difficile quoi. Et quand j'essaye, c'est drôle, mais pas là où je croyais, quoi. Il y a une conteuse qui a été très très importante pour moi aussi, qui est une conteuse belge qui ne raconte plus maintenant, mais qui a fait partie de cette époque qu'on a appelée le renouveau du conte, qui est Myriam Mallier. Et donc après, elle a écrit et puis elle était peintre. Et là aussi, en effet, on ne peut, comme disait Gigi, on ne peut pas tout, certainement pas tout aborder de façon rationnelle. Et ça, moi, c'est quelque chose qui est important pour moi. Une autre chose qui est importante aussi, c'est la dimension corporelle. Je pense que le verbe, parfois, est assez difficile à appréhender parce que c'est très mental et bah, quand même très rationnel. Hein, quand on doit choisir des mots, c'est quand même très rationnel. Et du coup, la dimension du rêve et la dimension du corps, en tout cas, me permet, m'aide à aller dans des dimensions des contes merveilleux, parce que c'est quand même les contes merveilleux que je préfère, dans des contes merveilleux qui, bah, que je ne comprends pas forcément, mais qui me parlent, où je me dis, ah là, il y a quelque chose à. J'ai envie de conter ça, j'ai envie de partager ça parce que ça me fait du bien. Et donc, je me dis, si ça me fait du bien, bah, il y a des chances que ça fasse du bien aux gens qui écouteront. Et ça, c'est quand même aussi quelque chose qui me paraît fort important dans notre travail, d'amener bah, une autre dimension qui permet d'aborder le quotidien avec une force renouvelée, avec un espoir renouvelé, ouais, de se ressourcer, en fait. Donc, j'ai pris des notes. Je regarde de temps en temps mon petit papier pour essayer de m'organiser. Mais en tout cas, voilà, la différence, la pensée unique, la binarité, l'exclusion, c'est vraiment des choses qui m'interpellent énormément et que je ne veux pas perpétrer dans ma vie quotidienne, qui me font très mal quand je le subis et quand je le vois, enfin comme tout le monde j'imagine, mais ben voilà, en tout cas c'est vraiment une ligne directrice pour moi et c'est comme ça que dans mon travail il y a eu donc ce premier pan autour de la folie et donc oui, puis il y a eu un deuxième pan sur tout ce qui était la dimension du genre parce que moi je me suis jamais sentie je ne me suis jamais identifiée comme femme. Après, je me suis rendu compte qu'il y avait certaines choses qui m'étaient plus faciles, ou en tout cas dont je pouvais me servir en tant que femme, mais aussi beaucoup de choses qui m'étaient pas permises, ou en tout cas. Et encore, hein, ça va, hein, je veux dire, bien sûr, hein, je suis blanche, je suis valide, je suis instruite. Je suis occidentale, donc je veux dire, j'ai énormément de privilèges. Mais en tout cas, la différence d'appréhension du monde, c'est quelque chose qui n'est pas facile dans ma vie quotidienne, quoi. Et alors voilà, donc la question de l'identité de genre, ça m'a intéressée. Et là, j'ai créé avec un ami violoncelliste un spectacle qui part d'un conte merveilleux. et où il y a cette dimension qui est présente, mais en même temps, on n'en fait pas une affaire d'État. Enfin, les personnages sont non binaires, mais voilà, c'est un conte merveilleux, quoi. Avec des créatures, ça s'appelle créatures. Donc avec une dragonne, une créature marine, enfin toutes ces créatures, tous ces monstres, tout ce qu'on dit monstre merveilleux m'intéresse beaucoup aussi parce que c'est une différence. Et en tout cas dans cette histoire-là, le personnage qui agit de façon monstrueuse est un homme, pas une créature merveilleuse. Et alors maintenant, donc ma recherche, elle va plutôt, donc c'est comme une progression, je pense, vers ce qui est non humain. Et donc là, je suis plongée dans des lectures et des recherches autour du végétal et de comment est-ce que l'humain peut être en lien avec ce qui est non humain. Donc les arbres, par exemple. Voilà.
Merci. Et donc, Yam.
Yem, oui. Alors.
Parce que Yam, assez. Toi, tu l'as traité, c'est marrant parce qu'il est. Yam est humaine. Yam est une figure humaine, là. Mais
Oui,
Yam.
Yem est une figure humaine, tout à fait.
Oui. Yam aurait pu être aussi une figure complètement naturelle.
Oui, mais là, c'est vrai que je
Oui,
suis au
pardon, de la
début
nature.
de cette recherche. Ça va?
Oui, pardon.
Il y a eu un aparté qui ne fonctionne pas très bien avec le son.
On est là, on est avec toi, mais on sert le café, c'est pour ça. On trinque avec toi, à la tienne. Au conte, au merveilleux et à nos fragilités.
Santé alors, santé mentale. Oui, donc pour moi, ce qui est venu comme histoire pour Yem, ça part d'une humaine qui est reliée à ce qu'il y a autour d'elle de non humain et qui lui permet de surmonter du quotidien, du réel qui est trop violent. Je pense qu'il y a quelque chose un petit peu peut-être d'un réel merveilleux ou d'un réalisme magique dans l'histoire, peut-être. Et ce qui m'intéressait, c'est de. Enfin, moi, j'ai imaginé Yem comme ce qui nous permet de surmonter les obstacles. Comme dans le conte merveilleux, le héros ou l'héroïne surmonte des obstacles, a des adjuvants, des adjuvantes et des opposantes évidemment. Et c'est dur, quoi. Franchement, les obstacles, la quête, c'est quand même costaud à chaque fois. Et ici, enfin, je trouve. Mais moi, c'est ça que j'aime, parce que c'est ça la vie. C'est pas tout repos, quoi. Mais heureusement, hein, parce que sinon, ce serait dommage, sans doute. Mais et du coup, ben, comme dans le conte merveilleux, il y a quelque chose où, à la fin, il y a quelque chose de positif qui arrive par rapport au début. Et ici, dans Yem, puisque de ce que moi j'avais imaginé et compris, c'est une reliance par rapport à une reliance, se relier. Le personnage de mon histoire se relie à d'autres humaines, mais aussi à la forêt. Et sa corporalité est hyper importante. Voilà, je me suis dit que. Enfin, ce que j'ai essayé de faire, c'est que ça a l'air, enfin, c'est une histoire qui a l'air très, je pense, peut-être contemporaine, et parce que c'est une histoire d'individu, c'est une histoire individuelle. Mais J'espère que ça peut toucher plus grand, que ça peut toucher l'universel, parce que des choses violentes qu'on ressent, qu'on reçoit, j'ai pas parlé de la guerre, par exemple. J'ai parlé de ce que... de ce dont je me sens légitime de parler. C'est ça. Ouais. Et voilà. C'est, en tout cas, c'est un qui fait du mal à une autre. Ben, la guerre, c'est ça aussi. C'est toujours... Enfin, après, c'est complexe. Ça, c'est sûr que c'est complexe. Mais en tout cas, d'après, de reprendre vie. Qui est quelque chose qui, comme la nature dévastée, après des catastrophes de bombes atomiques, de trucs comme ça, comme les humains dévastés après ça, il y a une vie qui va reprendre. Et du coup, de donner espoir, de donner confiance, ça ne veut pas dire qu'il faut se reposer, hein, mais en tout cas, que, voilà, il y a des choses qu'on vit, mais il y a moyen qu'à la fin, on en ressorte avec d'autres liens qui soient plus sains, peut-être, plus justes, et qu'il y ait moyen de voir de nouveau ce qui est beau dans le monde, quoi. Enfin, c'est ce que j'ai essayé de faire. Voilà, je ne sais pas si vous ne l'avez pas encore écouté, ben vous verrez si c'est si ce que j'ai essayé de faire, ça correspond un petit peu ou pas du tout.
Non, je crois qu'il n'y a que toi et moi qui avons écouté ça, là.